Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard.
Bonjour.
Bonjour frère Édouard, frère Philippe, avec toi. Nous sommes toujours dans nos dialogues autour de la liturgie et ce long passage du catéchisme sur l'esprit, ce que fait l'esprit dans la liturgie. On dit au paragraphe 1093 que l'Esprit Saint accomplit dans l'économie sacramentelle les figures de l'Ancienne Alliance. Ce terme « accomplir », comment l'entendre ? Il me semble que le catéchisme pose une forte continuité.
De fait, Jésus accomplit déjà les prophéties de l'Ancienne Alliance en général. C'est le premier sens que l'on retient dans le mot « accomplissement ». Mais c'est vrai que « accomplissement », comme le faisait remarquer un de mes maîtres en exégèse, le père Albert Vanois, il nous disait toujours « il y a continuité ». Car la première et la deuxième alliance, c'est la même révélation, c'est Dieu qui parle de multiples manières, certes avec l'événement central de Jésus-Christ à partir de la nouvelle alliance, mais tout prépare déjà à sa venue, à rencontrer le Christ, à l'accueillir, à accueillir le Messie, le libérateur, le sauveur, le rédempteur. Et les textes donc de l'Ancienne Alliance préparent et Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Donc il y a un sentiment de continuité, mais aussi le Christ étant tout autre qu'un simple libérateur temporel. Il est celui qui apporte la vie éternelle et l'eschatologie définitive. Et de ce point de vue-là, il y a un dépassement. Et il n'y a pas de dépassement sans une certaine forme d'arrachement et donc de rupture. C'est donc un ternaire qu'il faut toujours regarder quand on rencontre le mot d'accomplissement. Continuité, rupture, dépassement. On le voit par exemple pour le sacerdoce aaronique est terminé, il y a rupture, et pourtant il y a un nouveau sacerdoce que le Christ a institué en disant « faites ceci en mémoire de moi ».
Tu parlais avec ce terme d'accomplir, effectivement, en Luc 4, Jésus va lire le rouleau d'Isaïe à la synagogue.
Il dit clairement qu'il y a quelque chose qui s'accomplit des paroles mêmes d'Isaïe.
Oui, alors j'aime bien, on pourrait être littéral en lisant ce... J'aime bien le lire avec « c'est aujourd'hui que cette parole remplit vos oreilles ». Cette idée aussi, j'aime le côté concret, parce que la liturgie est faite de cette dimension concrète. La parole de Dieu que l'on y entend, il faut la prendre plein les oreilles, si je puis dire. Elle est pas décorative.
Oui, elle n'est pas décorative et elle insiste sur l'audier, sur l'aujourd'hui de sa réalisation.
Qu'on trouve dans le texte,
et Jésus le dit explicitement, et d'une certaine manière, il est celui qui, le pédagogue, qui nous introduit à ce qu'est la liturgie dans ce moment où il rentre dans la synagogue, où il va être rejeté d'une certaine manière, prophétiquement, tel que nous allons être rejetés nous-mêmes, les chrétiens, par rapport aux juifs pratiquants à la manière rabbinique, mais Jésus l'avait comme d'une certaine manière prophétisé, et cette prophétie nous met en face de cet aujourd'hui tel que l'exprime dans le 1095 le catéchisme sur l'aujourd'hui de la liturgie. L'Église, spécialement lors des temps de l'Avent, du Carême et surtout dans la nuit de Pâques, relit et revit tous les grands événements de l'histoire du salut dans l'aujourd'hui de sa liturgie. Cet aujourd'hui nous actualise dans nous-mêmes, dans notre foi, et nous met en face de ce que nous voulons vivre d'une manière déjà présente, mais aussi vers l'au-delà. Le Christ nous tend vers les réalisations définitives de la Jérusalem d'en haut. La liturgie, nous le disions dans une émission précédente, c'est de la théologie détendue, à la manière dont Charles Péguy l'écrivait. Et c'est toujours touchant de voir que nous nous nourrissons sensiblement et intellectuellement au même moment. C'est-à-dire, nous sommes dans une anthropologie unifiée quand nous sommes dans une liturgie. Nous ne sommes pas seulement à notre table de travail en train de raisonner ou seulement à nous distraire les sens quand nous sommes dans un repas ou dans une distraction. Tout est unifié, nous sentons l'encens au moment où la parole de Dieu va être proclamée, où l'évangile est encensé, où les saints dons sont encensés. Tous ces éléments-là activent en nous les sens et nous aident à comprendre que c'est maintenant, c'est pas une projection de l'esprit. Eh bien, l'odeur de l'encens me rejoint, les lumières qui sont autour de la liturgie rejoignent mes yeux et mes oreilles entendent quelqu'un qui proclame, le diacre par exemple, la parole de Dieu, ou le lecteur des premières lectures. Souvent, la première lecture, c'est l'Ancien Testament, mais ça peut être déjà le Nouveau Testament avec les Épîtres. Les psaumes sont toujours dans la Première Alliance et nous relient comme un tronc sûr avec des racines sûres. Nous sommes cet homme du psaume numéro 1 qui a des racines profondes et qui baigne dans l'eau de la source divine pour que nous soyons des hommes debout au jour où le Christ se manifestera dans sa gloire, qu'il puisse nous trouver debout, attendant le Fils de l'homme.
Oui, quand tu évoques cette anthropologie complète qu'il y a dans la liturgie, c'est vrai que parfois nous pouvons être dans cette tendance à en faire quelque chose de très cérébral, la liturgie, à y attendre quelque chose de très cérébral, vouloir tout comprendre, vouloir tout savoir, et mépriser ce qui relève de, tu disais, l'odeur hein, de l'ensemble, ce qui relève de la couleur, ce qui relève de la marche. Je me souviens d'un...
Oui, il y a des processions. On fait des processions dans la liturgie, c'est magnifique.
On dit que la foi, ça rentre mieux par les pieds.
Oui.
Mais ça ne rentre pas que par les pieds. Voilà. Mais de fait, on ne peut pas mépriser tout ce qui fait l'homme dans sa... comment dire, son entièreté et sa complexité aussi. Mmh. Et c'est vrai que ça peut être ni ludique ni cérébral, ce n'est pas ou l'un ou l'autre, c'est bien l'ensemble, et je trouve important que tu nous le rappelles de cette façon-là. Je pensais aussi à cette difficulté des fois qu'on peut avoir de dire la liturgie, on doit la moderniser, ou alors on va la figer à tel ou tel moment qui n'a peut-être pas la complétude en fait que qu'elle est censée avoir. Je pense que quand on regarde un petit peu cet accomplissement de l'Ancienne Alliance, quand on voit les éléments que l'article 1093 nous donne, hein, la lecture de l'Ancien Testament, la prière des psaumes, et surtout la mémoire des événements sauveurs et des réalités significatives qui ont trouvé leur accomplissement dans le mystère du Christ. Donc le catéchisme cite la promesse et l'alliance, l'exode et la Pâque, le royaume et le temple, l'exil et le retour. Je me dis qu'il faut qu'on soit bien attentif à ne pas fantasmer la liturgie à un certain seuil, ou comment dire, à une de ces étapes, ni non plus à se dire on va réinventer, on va la rendre acceptable, audible, recevable à des gens d'aujourd'hui. Notre culture est obligée de se dire, notre culture chrétienne, notre culture de croyants est obligée de se dire... Il trouve sa source quelque part et on ne peut pas sortir de cette source.
Cette source, oui. Alors il y a un grand critère liturgique qui aide à faire ce départ entre ce qui pourrait être actualisé et ce qui doit être conservé. C'est la fameuse formule de Saint Célestin, l'ex orandi, l'ex credendi. La loi de ce que l'on prie est en même temps la loi de ce que l'on croit. Et c'est vrai qu'à la base, comme le remarquait le serviteur de Dieu Pie XII dans Mediator Dei, la dernière encyclique de liturgie que nous ayons, bien sûr nous avons eu après plus grand le Concile Vatican II, mais au niveau encyclique, c'est quand même la dernière qui a été donnée, et il disait qu'à l'origine, il fallait inverser la formule. C'est-à-dire que c'est parce que les premiers croyants avaient dans le cœur le dépôt de la foi que Jésus leur avait donné par l'Esprit Saint, qu'ils ont pu agir liturgiquement. Donc c'est l'ex, en fait, credendi qui a engendré une lex orandi. Et petit à petit, maintenant, c'est une référence à cause de la fidélité de nos pères. Donc c'est parce qu'ils ont été fidèles que nous pouvons nous appuyer sur cette lex orandi, lex credendi. Si on dévie, à ce moment-là, l'axiome n'est plus vrai, puisqu'il n'y a plus fidélité à ce premier courant de la foi qui a influencé la liturgie. Et le pape Pie XII donc, avait cette belle formule, lex credendi legem statuat supplicandi. La loi de ce que l'on croit statue finalement la loi de ce que l'on supplie, de ce que l'on prie. Et nous avons ainsi des critères qui nous permettent à la fois d'être très sensibles aux structures de notre temps, aux changements culturels, aux adaptations culturelles qu'il faut sans cesse faire pour que la liturgie soit actuelle, qu'elle ne soit pas figée dans des espèces de ritualisme dont on ne sait plus d'ailleurs trop d'où cela vient, pourquoi on le fait, mais être toujours inventive, capable de nouveautés, mais dans une nouveauté qui reste fidèle. Voilà. Et ça, c'est la difficulté. Nous n'avons comme modèle finalement que le Christ, quand dans l'Apocalypse, il fait cette, on lui donne cette remarque, il fait toute chose nouvelle. Car toute liturgie, dans le fond, est à la fois actualisation, mémoire du passé, hein, et au moment où le prêtre appelle les paroles de Jésus, faites ceci en mémoire de moi, il y a vraiment une incrustation dans la mémoire du passé, mais en même temps, chaque liturgie est une actualisation, un odier, comme on disait précédemment, un aujourd'hui qui est pour nous à saisir et à ne pas escamoter.